Cette semaine, dans le balado, on surmonte notre condition physique, on affronte des licornes et on pète des gueules. Bienvenue à mon ciné balado en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff.
Salut, salut.
Écoute, je pense cette semaine qu'on a un menu 5 services qui nous est offert.
Je sais pas si tout... Si l'accord met 20 est respecté dans tous ces services-là. Là.
Est-ce que c'est un repas gastronomique? On verra bien.
Oui, c'est plus, mais, peut-être plus 5 services au buffet des continents.
Quand même très chargé comme semaine, comme le mois de mars et avril sera. Beaucoup de sorties. Mm-hmm. Également très chargé en termes d'actualité. C'était plus récent, c'était plus tranquille ces récentes semaines, mais beaucoup d'annonces intéressantes.
Et même moi, j'en ai, t'imagines.
Ben, alors vas-y, je te laisse l'honneur de débuter.
Un petit oiseau m'a dit qu'il y aurait un remake, probablement, je ne sais pas s'il est américain ou anglais, du Comte de Monte Cristo.
Ah, OK.
Et parce qu'il est à la page et qu'on le voit dans Black Bag, eh bien, c'est Reggae Jean Page qui incarnerait Edmond Dantès et il produirait lui-même, en fait, avec sa compagnie de production. Je pense qu'il était avec sa copine et tout. Et j'ai vu ça sur quelques sites de nouvelles, mais pas dans l'ensemble. Fait que c'est pour ça que j'ai... Ça disait remake américain, mais je me dis, ben, c'est peut-être plus britannique comme adaptation,
co-prod,
en fait.
En tout cas,
exact, ou co-prod pour que le film rayonne plus, puis que ce soit plus payant, mais lui, c'est un britannique aussi et tout. Là. Fait que. Ouais, puis ça, je suis pas sûr à 100%, mais on dit souvent, quand on le sait pas, on dit régé, mais j'ai cru qu'on pense que c'est reggae. Reggae Jean Page.
Comme la musique.
Comme, ouais, exactement.
Bon, ben restons du côté britannique, même si ce n'est plus britannique, on parle de la franchise James Bond, qui est officiellement passée sous le contrôle
de MGM
d'Amazon et de Jeff Bezos, parce qu'on sait que...
J'espère que c'est pas trop lui qui a son mot à dire dans...
J'ai hâte de voir. Mais en tout cas, on a au moins nommé des producteurs qui vont s'occuper de gérer au moins le prochain film. On ne sait pas si c'est pour plusieurs ou un, mais assurément le prochain. Quand même un duo qui est quand même assez prolifique à Hollywood, qui ont eu leur part de succès. Donc, on parle de Amy Pascal, qui est derrière les films de Spider-Man depuis le début, depuis 2002 avec Sam Raimi.
Okay.
Et David Hyman, qui est derrière la franchise Harry Potter.
OK.
Alors, fait qu'on aura le mix des deux. Je ne sais pas si les deux vont bien travailler ensemble.
Ouais, je ne sais pas si ça veut dire quoi tout ça, là, si c'est bon ou mauvais.
En tout cas,
on jugera avec les résultats.
Je pense que oui. Est-ce qu'on va peut-être surcommercialiser, peut-être rendre ça trop bonbon?
C'est
C'est peut-être ça le danger pour un nouveau public, une nouvelle génération. Mais en tout cas, je pense que Amazon vont pousser très fort pour que tout ça aille très vite, là, parce que j'ai l'impression qu'ils veulent maximiser leur achat le plus rapidement possible. Et on va sûrement s'attendre à des séries télévisées, spin-offs entourant tout ça. J'ai l'impression que ça va être une espèce d'univers partagé qui est tellement à la mode aujourd'hui dans le milieu du cinéma.
Malgré l'échec cuisant de Wolfman au cinéma, le Universal continue avec son Monster Universe et le prochain en liste sera Mummy. On refait la Mummy.
Ouais.
C'est Jack Rayner qu'on avait vu entre autres dans Midsommar, dans Detroit, qui va jouer le personnage principal. Là. Je ne sais pas s'il va être la Mummy ou quoi que ce soit. Là. Mais le film sera encore produit par Blumhouse avec Atomic Monster et avec, cette fois-ci, Doppelganger, ce qui est la boîte de Lee Cronin, lui qui avait fait le dernier Evil Dead, le dernier remake où c'était passé tout dans un appartement, là, dans un condo, qui avait eu un Evil Dead Rise, en fait, qui avait eu un très bon succès et réception critique et tout. Fait que ça, c'est sa boîte. Fait que c'est lui qui va réaliser, être un des coproducteurs. Puis ça devrait être pour avril 2026.
Okay.
Ça poursuit. Fait que malgré les échecs, on se relève, on retrousse nos manches et on continue à faire les classiques. Mais ouais, on s'est écarté de... J'ai déjà oublié son nom, mais... Lui qui vient de faire Wolfman.
Lee Whannell.
Ouais, c'est ça. Après avoir louangé...
Et là, de ce que je comprends, c'est qu'on
l'homme invisible, mais...
on va s'éloigner de l'incarnation de Mummy de Brendan Fraser. On n'est pas du tout dans l'Indiana Jones.
Je croirais j'en ai aucune idée. Mais ça m'étonnerait, parce que ça ressemblerait pas beaucoup à Blumhouse et Atomic Monster.
Non,
mais écoute, peut-être que ça leur tente. Mais non, je crois qu'ils vont être plus dans le contemporain et rendre ça terre à terre, un peu comme les autres ont fait. Là.
Réinventer un peu le mythe de leur... créature, qui va être un personnage mythique.
Un peu à la... comment ça s'appelait, donc? La relique, là. T'sais, des conservateurs dans un musée d'histoire naturelle qui vont recevoir une momie ou très les 7 boules de cristal. Là, genre, peut-être bien.
Avais-tu d'autres choses?
J'ai autre chose qui vient d'apparaître tout juste avant d'enregistrer. Le roman « Faire les sucres » de Fanny Britt, qui a été un bon succès, je crois. Je ne sais pas, il est paru assez récemment, je crois.
C'était 2021.
OK.
Puis, il a gagné même le prix du gouverneur général, quand même.
Bon, mais ce n'est pas gênant. Va être adapté au cinéma, scénarisé et réalisé par Léa Clermont-Dion, sa première fiction.
Oui, c'est ça.
Et la compagnie de production, dans le communiqué, disait qu'il espérait, si tout va bien, un tournage en 2027. Fait que c'est sûr que c'est pas pour demain, c'est peut-être un film donc plus pour 2028.
Mm-hmm.
Ce qui va, tu vois, parce que là, ça prend du financement et tout. Mais j'imagine que si on fait l'annonce là, c'est probablement que déjà, tu sais, l'acquisition vient pas de se faire, mais elle devait déjà être faite, puis qu'on avait déjà soumis des premiers scénarios peut-être là, pour pas que tu fasses une annonce puis que ça va se passer dans 8 ans.
Non, c'est ça. Mais de ce que j'ai compris, c'est qu'ils avaient eu le financement pour le scénario.
C'est ça, OK.
Et généralement, ça doit indiquer que ça doit être assez positif après ça pour le volet production. Là,
probablement, voilà. J'étais très curieux de voir ça. J'ai pas lu ce livre-là.
Moi non plus.
C'est rare que j'ai lu le livre, mais ça m'intéresse. J'aime beaucoup la carrière de Léa Clermont. Fait que je serai au rendez-vous. Je sais pas si je vais lire tout de suite, là. De le garder frais, là, ouais, c'est ça, peut-être plus lire ça en 2027. D'autres nouvelles ou bandes-annonces?
D'autres nouvelles, oui, moi j'ai encore trucs intéressants parce qu'on a enfin dévoilé la distribution du prochain Avengers.
C'était un peu nouvelle slash bande-annonce, là.
Ouais. Donc, on comprend.
Naguiche.
Ouais, alors on a dévoilé le casting. Est-ce que tu as eu le temps de regarder ça un petit peu?
Oui, j'ai pas noté tous les genres de 27 noms qui sont défilés, mais j'étais très surpris et heureux d'apprendre que Simu Liu est de retour avec Shang-Chi. Et ça me réjouit, car je l'apprécie beaucoup, ce comédien et ce personnage, même si des fois, il fait des films pas très bons, mais en Shang-Chi, je l'aime beaucoup. Patrick Stewart et Ian McKellen.
Ouais, ça, c'est des grosses surprises.
Le gros duo. Puis sinon, ça va être pas mal la gang des Thunderbolts, donc du Wakanda, Ant-Man, puis des Fantastic Four.
Je peux y aller de la déferlante. Donc, les absents notables quand même.
Ouais.
On a Spider-Man qui n'est pas là, Hulk, Star-Lord, Doctor Strange, Captain Marvel et Hawkeye, parmi les personnages plus classiques. Bien que Benedict Cumberbatch avait révélé que lui serait probablement du deuxième, en fait, parce qu'encore là, c'est un film en deux parties. Donc, on le reverrait dans le deuxième film. Je ne serais pas étonné que Spider-Man aussi peut-être ferait son apparition. Je pense qu'on veut le repartir, sa nouvelle trilogie seule, l'an prochain. Puis après ça, peut-être l'intégrer au prochain film. Oui,
parce que techniquement, il est encore oublié de tous là, en ce moment.
C'est
là,
ça. Sinon, qui sera présent? Donc, on a Thor, Loki, Captain America, The Falcon, les Fantastic Four, Thunderbolts, évidemment, Ant-Man, Shuri, qui est maintenant Black Panther, Namor, quand même, Shang-Chi, tu l'as mentionné, beaucoup d'X-Men, donc Xavier, Magneto, les incarnations, comme tu viens de dire, Beast, qu'on avait vu dans The Marvels, à la fin, dans le petit générique.
Oui, OK.
Cyclops, Mystique, mais la version X-Men de Bryan Singer, donc Rebecca...
C'était elle, ça.
Ouais. Nightcrawler d'X-Men 2 et Gambit avec Channing Tatum.
Oui, c'est vrai. Quand même
assez costaud comme casting. Alors, on verra bien tout ça se donnera à l'écran. Donc, on rappelle, c'est pour mai 2026.
Et surtout, Robert Downey Jr. en tant que méchant.
Docteur Doom, effectivement.
Pour mai 2028, ça?
26. Oui. Tournage a lieu là. On commence ça dans les prochaines semaines. Quand même, pas une nouvelle.
Ça va sûrement durer 2h40.
Ah, c'est sûr.
Les autres, ils avaient fait ça aussi. Des bons 2h30, je pense.
Ouais, 2h30, 2h45, je pense. Grosse nouvelle qui touche pas nécessairement la production cinématographique, mais le milieu du cinéma. Une institution change d'endroit. Le Sundance Film Festival, qui a été une quarantaine d'années à Park City, à Utah, va déménager en 2027 à Boulder, au Colorado.
OK.
Donc, ça faisait quelques années là, que je pense qu'ils avaient certaines tensions, ou en tout cas qu'il y avait cette idée-là de changer d'endroit. Alors, c'est officiellement signé et annoncé.
Parce que le festival était trop gros pour la ville, un peu?
Entre autres, je pense. pense. Je pense qu'il y a des incitatifs financiers qu'ils avaient perdus. Mais en même temps, depuis la pandémie, je pense qu'ils avaient certains problèmes financiers, d'achalandage aussi. Puis de ce que j'ai lu aussi, certains gens de l'industrie disent que ça n'a plus le cachet que ça avait dans les dernières années. On a trouvé, signé moins de films là, qui ont marqué. Fait que...
J'ai souvenir, et peut-être c'est erroné, mais quand j'étais plus jeune, il y avait un épisode de South Park, dans la première saison, qui organisait leur festival de cinéma. Ben puis là, il y avait juste trop de monde. Puis il me semble qu'il y avait un clin d'œil à Robert Redford.
Plus qu'un clin d'œil. Oui, okay, il était jaloux, puis il voulait détruire le festival de South Park.
Puis là, Mr. Hankey, le petit caca, il arrivait en disant « Ça va, il y a un problème, il y a trop de monde. » Fait que là, il y a trop de merde pour les égouts, puis tout, genre. Trop de gens, trop de défécation.
Tout à fait.
Fait que, OK, c'est ça, j'étais pas fou qu'il y avait... Je me souviens de l'épisode, mais j'étais plus sûr pour le clin d'œil à Sundance.
C'était un épisode mémorable, donc Robert Redford. Faisait les frais de gang.
Ouais, puis qu'on dit que finalement le festival est trop gros pour la ville, il est devenu trop gros. Puis...
Ben, c'est beaucoup au milieu des années 90 justement où ça a explosé, là, effectivement, là, où toute l'industrie se déplaçait là-bas pour tenter de dénicher la nouvelle perle rare du cinéma indépendant américain.
Ouais, c'est ça. Puis ça a continué début 2000 avec Little Miss Sunshine et des choses de même. Là.
Donc, fait que voilà pour Sundance. Sinon, dernière
cette
nouvelle.
Année, avec deux femmes en or.
Oui, tout à fait. Ben oui, c'est vrai.
Peut-être que ça va être. Je ne sais pas s'il était acquis pour les États-Unis, s'il a quelqu'un acheté les droits. On leur demandera quand on les rencontrera.
Ben
dans
oui,
semaines.
Ben oui, ce serait intéressant de jaser leur expérience là-bas. Parlant de cinéma d'ici, ben c'est on a eu la liste des nommés pour les prix écran qui auront lieu le 1er juin. Sans grande surprise, c'est Universal Language qui...
Prix écran, c'est canadien, ça?
Prix canadien, oui.
C'est-tu les anciens Genie?
Oui, c'est les Genie Awards.
C'est pareil ou ça a changé de nom?
Ça a changé de nom, tout simplement. Ça fait une quinzaine d'années, je pense. Je pense que c'est la 15e édition sous le nom Prix écran. Donc, c'est un rebranding. Alors, 13...
Si je me souviens bien, il a été animé par Simu Liu, genre l'an passé ou l'autre d'avant. Ah non, il a animé les galas de musique canadienne, lui.
OK, c'était les Junos.
Oui, c'est ça, c'est les Junos qui a animé récemment.
Prix écran. Moi, je sais que quelques années, je pense que Martin Short le fait. Des fois, on va chercher un comédien, mais c'est une jeune humoriste que je connais pas. Qui va
Catherine Levaque.
Ouais, c'est cool. Donc, Universal Language en tête, 13 nominations. Deuxième de Shrouds avec 9.
Ouais, qui sort plus tard.
Moi, en avril. J'ai hâte de voir est-ce que c'est juste des nominations un peu par dépit, parce que c'est Cronenberg, puis on lui donne tout le temps plein d'amour. Peut-être, là, mais tu sais. Parce que quand même, le film d'Atom et Goyan aussi a reçu quand même quelques
puis il a moins conquis le public.
Ouais, mettons. C'est ça. Et même les critiques un peu. Du côté québécois, c'est les Rayons Gamma qui sont en tête avec 4 nominations, dont film, réal, scénariste. Ouais, on est complètement ailleurs de prix cinéma ici parce que le deuxième, c'est La Fonte des Glaces.
OK.
Quand même avec
3,
donc une nomination pour Christine Beaulieu comme meilleure actrice. Fait que voilà. Alors, les gagnants seront révélés le 1er juin dans ce cas-là. Bande annonce, une grosse, en fait, pour certains amateurs de cinéma.
Ben, qui vient tout juste d'être diffusée. One Battle After Another de Paul Thomas Anderson. En fait, il y avait eu un petit teaser la semaine passée de 20 secondes, disant que la bande annonce sortirait ce vendredi.
C'est la nouvelle mode, là.
Ouais, voilà, pour être sûr que tout le monde soit au rendez-vous. Le prochain, Paul Thomas Anderson. Puis, je me trompe, il avait annoncé sa retraite, puis finalement, il est sorti de sa retraite.
Ah, je sais.
Non, je mélange avec le comédien qui jouait beaucoup dans ses films. J'ai oublié tous mes noms ce matin. Qui a lui aussi, il a 3 noms, prénoms, là.
Qui
full method acting dans There Will Be Blood, justement.
Ah oui, Daniel Day-Lewis.
Daniel Day-Lewis, lui qui est en retraite. Ouais. J'ai mêlé les deux ensemble, puisqu'ils ont travaillé souvent ensemble. Pas clair, mais ça met en scène surtout Léo DiCaprio, qu'on comprend que c'est des anciens révolutionnaires, qu'on ne sait pas trop pourquoi, peut-être au Mexique ou au Nouveau-Mexique ou une affaire de même, puisqu'il a l'air d'avoir beaucoup de personnages d'origine hispanophone, dont Benicio del Toro. Puis que là, shit revient hiter le fan, genre là, sa petite fille est kidnappée ou quelque chose comme ça, ben sa fillette. Puis il a besoin d'aide pour aller rechercher ça. Fait une espèce de comédie noire d'action de révolutionnaire avec un budget de fou pour ça.
Budget colossal, on parle de près de 150 millions, ce qui est énorme pour un film d'auteur, on s'entend.
Ben, et puis Ça, c'est n'en déplaise au... Pas n'en déplaise au film, mais c'est... Pas pour parler contre le film, moi je trouve ça a l'air vraiment bon, ma curiosité, mon intérêt sont piqués, j'ai très hâte, 25-26 septembre, mm-hmm. je pense, très hâte de voir ce film-là, je pense que ça va être un grand compétiteur pour les Oscars et la cérémonie de prix, jouer tout l'automne. Il sort souvent ses films, en fait, début automne, ça arrive souvent, septembre. Mais c'est du côté de la production, c'est ça. Mon hypothèse, c'est que quand... Nolan était plus content, qu'il est parti, que Universal lui a donné pratiquement un chèque en blanc pour faire Oppenheimer, que ça a fait un solide gros hit qui a gagné plein d'Oscars, dont celui du meilleur film, et en plus d'avoir fait près $1 milliard. Je pense que Warner voulait pas se retrouver le bec à l'eau, puis ils ont fait comme « OK, ben nous, on prend le prochain, hey, Paul Thomas, nous on te le finance, hey, qu'est-ce que tu veux, fais-le, parce que Paul Thomas, c'est son plus gros succès de Will Be Blood, il a fait 75 millions. »
C'est ça.
Fait que, mettons que c'est un méga hit parce qu'il y a DiCaprio puis qu'il fait comme quoi 300 millions là, mondialement. Là.
C'est énorme déjà.
C'est vraiment beaucoup là, pour ce moi, genre de film.
S'il fait un 100 millions, ça va être c'est exceptionnel. Ça.
Fait que ben, peut-être qu'il paye pour un Oscar pour du prestige. Puis ça, ben, je louange ça à ce moment-là. Faut pas juste financer des films dans le but de faire de l'argent puis que ce soit toujours de la redite puis du popcorn au caramel. Là. Tu veux quand même de la substance aussi. Fait que je suis bien content, mais je suis très surpris. Surtout avec les drôles de décisions que Warner ont pris peut-être récemment. Ben là, puis je comprends aussi que c'est pas un film qui a été financé la semaine passée. Là. Ça doit faire quelques années qu'ils sont sur le projet. Là.
Non, tout à fait. Puis écoute, ça demeure toujours très cryptique comme les bandes-annonces de Paul Thomas Anderson.
Ben, c'est une bonne bande-annonce à ce moment-là.
Oui, tout à fait.
Ça
vraiment,
révèle
oui.
vraiment pas tout ce qui se passe, puis pourquoi ça arrive, puis etc.
Oui, oui. Puis je sais que c'est en partie inspiré d'un roman aussi très politique, là, une espèce de critique du régime de Nixon et tout ça. Donc, ça se passe dans les années 70-80. Oui, c'est ça. Fait que. Bien hâte de voir. On découvrira ça en septembre. Sinon, moi, il y en a une autre très petite, en fait, qui a piqué ma curiosité aussi. C'est Bonjour Tristesse. Peut-être que ce nom-là vous dit quelque chose. C'est l'adaptation d'un roman de Françoise Sagan que je n'ai jamais lu, mais c'est un nom que je connais dans la littérature française. Et c'est réalisé par une Montréalaise, Durga Chubose. Premier film, c'est une autrice, elle est enseignante en littérature. Il y a quand même Alyosha Schneider dans le film, mm-hmm. mais ça a l'air vraiment, ça se passe sur la Côte d'Azur, ça a l'air vraiment beau.
Ouais, c'est une production canadienne.
Oui, une production canadienne. Évidemment qu'on a adapté le roman en anglais, parce que la version originale du film est en anglais, le roman est français. Mais ce qui est intéressant, c'est que Françoise Sagan, je suis allé lire un petit peu... Elle a écrit le roman en 1954 et elle avait 18 ans quand elle a été publiée. C'est un des romans français les plus vendus dans le monde. Fait que je suis curieux de voir ça, mais vraiment, l'esthétisme, là, vraiment très, très intéressant pour un premier film comme ça.
Bien, un coming of age qui a l'air pas trop cliché. Là,
non, 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 effectivement. Puis... que j'allais dire. Donc, ouais, puis quand même un élément un peu de thriller, je pense, aussi à travers ça. Là. Fait que, bref, allez voir ça. Avec je pense aussi, que ça peut être intéressant comme film.
L'acteur britannique Claes Bang, qui est un peu méconnu, mais qui est excellent dans les films que.
Et Chloé Sevigny, quand même aussi. Donc, ça va sortir en salle le 2 mai.
Ouais, très, très bientôt.
Ouais, donc ça pourrait être une belle petite surprise. J'ai bien hâte de voir. Donc, allons-y avec les films de la semaine.
C'est avec quoi on commence? Notre
je vais aller avec l'entrée. On a notre menu 5 services. Je vais rester dans
c'est
le concept.
C'est toi qui... Je sais pas, c'est toi l'hôte. C'est toi qui décide.
C'est moi qui sers le repas.
Ouais, voilà.
Donc, comme entrée, on va y aller très, très léger avec Death of a Unicorn d'Alex Sharfman.
Oui, La mort d'une licorne au Québec, tout simplement. C'est une traduction littérale. Avec Paul Rudd, Jenna Ortega, Will Poulter, Richard E. Grant. Un duo père-fille, donc joué par Paul Rudd et Ortega, sont en route vers une espèce de retraite fermée qui est le chalet de son patron, de ses patrons, dans une grosse compagnie de Big Pharma, de pharmaceutique. Puis lui, essaie de, c'est un avocat, de mettre sa main là-dedans pour être sur le board prochainement puis avoir beaucoup d'argent, ce qui pourrait aider... sa fille a tout à voir, parce que maintenant que leur mère est morte, il s'est fait la promesse de qu'elle ne manquerait jamais de rien, et pour lui, ça, c'est beaucoup de l'argent. Fait qu'il grind là-dessus et accidentellement, bien, il tue une licorne, un roadkill, une licorne.
Donc oui, les licornes existent.
Voilà. Mais eux aussi sont surpris de ça. Ouais. Là, ils n'en ont jamais vu auparavant. C'est comme, qu'est-ce qui se passe? Et reçoivent un peu d'éclaboussure de sang en voulant l'achever parce que pauvre bête, elle souffre. Mettent ça dans le coffre de la valise et se dirigent quand même, poursuivre leur route pour se rendre au chalet. Mais finalement, quand la famille, donc les deux parents et le jeune, donc joué par Poulter, vont réaliser qu'ils ont frappé une licorne et tout ça, eux aussi ne sont pas au courant que ça existe, vont découvrir les propriétés un peu magiques de ce sang-là, le fait que les autres aient été éclaboussés, ça a guéri son acné, l'autre, ça a guéri sa myopie, etc. On va dire, ben là, il faut le milker, faut aller chercher tout ce qu'on peut là-dedans, faut analyser cette bête-là, puis
ouais, parce c'est que des fond,
de la pharmaceutique. Fait ouais, qu'il y a de l'argent à faire avec ça, là, on ne laissera pas ça de même. Tout ça pour le bien des gens et du monde, évidemment.
Mm-hmm. Des gens riches aussi.
Oui, voilà. Comprend. Fait que là, Rod se retrouve un peu tiraillé là-dedans entre sa fille qui dit « j'ai l'impression qu'on ne devrait pas faire ça », mais lui qui est comme « non, mais là, je ne veux pas perdre ma place auprès d'eux parce qu'il y a beaucoup d'argent à faire avec ça ». Et finalement, tranquillement aussi, on dirait que la nature va se mettre contre eux et peut-être qu'ils ne devraient pas jouer avec cette licorne morte parce que peut-être que d'autres licornes chercheraient à se venger.
Mm-hmm.
Alors, c'est une comédie noire d'horreur. Fait que,
ouais,
on alterne entre les personnages colorés, les scènes humoristiques et aussi un peu de jumpscare et de mort, beaucoup par empalement de cornes.
C'est assez graphique. Il faut, faut que vous soyez avertis si jamais vous pensez amener peut-être des pré-ados.
Ben, c'est un 13 ans et plus.
Oui, c'est ça. Je peux mériter, honnêtement. Là, mm-hmm. Je ne pensais pas que ça irait aussi loin graphiquement. Fait que, mais écoute, moi, j'ai vraiment aimé la prémisse. C'est vraiment original. Je trouve ça le fun. Peut-être que le résultat final n'est peut-être pas complètement à la hauteur de l'idée loufoque qu'on nous soumet là. On sent que c'est très inspiré de Jurassic Park de Steven Spielberg.
Ouais, il y a un dommage, moment, c'est ça, là,
tant dans la structure que dans le visuel.
C'est ça, dans le bois avec des licornes autour d'eux, on créerait les petits raptors. Ouais. Même Grant, qui est habillé, il a l'air de... Je suis pas le nom du comédien, mais lui qui fait Paul, là, le garde-chasse, ouais, ouais. Son petit chapeau tout en beige avec ses shorts, il a l'air habillé pareil, fait que... Clairement, ça doit être une inspiration pour Alex Sharfman, là, qui a-tu écrit aussi le film?
Oui, qui a aussi scénarisé.
Fait que ça doit être un enfant de Jurassic Park et Jurassic World et tout.
On est dans le très léger ici. J'ai apprécié aussi les personnages très colorés, dont Will Poulter. Je pense que c'est lui
la vedette. Oui, je pense qu'il vole un peu la vedette parce qu'il est en cette espèce de... l'enfant adulte, mais l'enfant des riches, là.
Ouais. Puis, l'héritier un peu de genre l'entreprise.
Fin vingtaine, début trentaine, insupportable. puis, ouais, très égocentrique, égoïste.
Qui aime les shorts.
Ouais, toujours en short, qui est toujours de mauvais goût comparé aux autres. Fait que oui, je trouve qu'il est bien défini, ce personnage-là.
Ouais, tout à fait. Donc, à voir si vous aimez les trucs urgents. Puis c'est une production A24. Je pense que c'était complètement financé par eux. Donc déjà là, ça va vous donner un petit peu le ton un peu décalé
de
ce film-là. Allez-y ensuite avec The Woman in the Yard de Jaume Collet-Serra.
Ouais, plus traditionnel dans l'horreur ici, la femme dans le jardin. Avec Danielle Deadwyler, qu'on avait vu dans Till ou Emmett Till, qui a fait beaucoup de films qui ont été acquis directement sur Netflix, qu'on l'a pas vu beaucoup au cinéma. C'est une jeune veuve qui va tenter de protéger ses... On dit toujours jeune veuve, mais une veuve, là. De...
Ouais.
Début quarantaine, là, qui tente de protéger ses deux enfants d'une espèce de mystérieuse vieille madame tout habillée d'un voile en noir qui apparaît assise dans une chaise très gothique au bout de leur cour, de leur jardin, une espèce de grande fermette qu'ils sont en train de rénover. Fait qu'on va comprendre que le père est mort récemment d'un accident de voiture qui a impliqué la mère aussi. Elle est blessée, mais survivante. Que tout le monde a de la misère à se remettre de son absence. Et en fait, est-ce qu'ils veulent être encore dans cette maison-là, puisque c'était beaucoup le projet du père de rénover la fermette? Fait que cette dame-là, très mystérieuse, qui parle pas, qui reste assise, mais tranquillement, qui s'approche de la maison, qui a l'air à jouer beaucoup dans le jeu des ombres, va avoir une forme d'emprise sur elle et là, la vérité va ressurgir de toutes ces choses-là. Ben, c'est pas un gros spoiler, mais tu sais, on est beaucoup dans les métaphores de la mort, du deuil, et surtout de la dépression et de ces choses-là.
Ouais.
Il y a un double sens, c'est pas un slasher avec juste quelqu'un qui veut les tuer, il y a un double sens à tout ça dans ce huis clos-là. Et je sais pas comment on dit, Jaume Romain Collet Serra est un réalisateur de métier qui a fait une douzaine de films, certains. Il y en a encore d'autres en tournage et à sortir. Un de ses plus connus dans l'horreur, The Shallows, avec Blake Lively.
Moi, j'avais beaucoup aimé.
Oui, vraiment un bon suspense, le requin qui tourne autour de la petite la bouée de nautique. Orphan, House of Wax, mais aussi des plus grosses productions, Jungle Cruise, Black Adam, qui avait été un échec pour différentes raisons. Puis il y a aussi une série, on reviendra sur les films d'action aujourd'hui, mais lui a fait une série de 4 films avec Liam Neeson à un moment donné, Commuter, Unknown, Non-Stop, Run All Night, à l'époque où Neeson était encore au cinéma, sur le grand écran, ça s'est calmé beaucoup. Il va être aussi à la barre du prochain Cliffhanger. Je ne savais pas que c'était lui avec... j'ai oublié.
Lily Collins,
apparaître.
Ah non, Lily James.
Lily James, oui. Apparaître quelque part cette année, je pense en 2025. Puis Carry On, petit phénomène Netflix, justement.
C'est dans des fêtes, petit film d'action.
Fait que, j'ai parlé beaucoup de Collet Serra, mais parce que c'est vraiment un réalisateur efficace pour cette mise en scène-là. Je dois dire que je m'attendais au pire avec le film. Moi, j'étais pas du tout vendu par la mise en marché, la bande-annonce et tout.
Qui est trompeuse, faut le dire, la bande-annonce. C'est pas tout à fait le film.
Ça laisse penser beaucoup, là. C'est ça, que, je sais pas, qu'il va y avoir des kills pis tout. Mais tu sais, amateur de films d'horreur, vous savez que s'il y a un huis clos de 3 personnages... le death kill va pas être super élevé au bout du film.
En fait, on est vraiment plus dans le thriller psychologique que le film d'horreur.
Ouais,
c'est ça que la bande-annonce laisse peut-être présager un peu si c'est un phénomène surnaturel. Mais on n'est pas tout à fait là. Puis on est pas loin d'un A24 non plus. Là, puis ces films-là qu'on avait il y a 7-8 ans. Là, fait que moi, à ce niveau-là, ça m'a surpris, agréablement surpris. Je pense que le film est différent à quoi je m'attendais, un peu comme toi aussi d'ailleurs. J'étais peut-être avec des idées un peu préconçues, mais finalement, je trouve qu'il y a vraiment une matière intéressante. Encore là, je pense que c'est pas complètement abouti, mais il y a de bonnes idées. Collet Serra, c'est quand même bien réalisé.
Ouais,
visuellement, c'est super intéressant, le film.
Puis le début du film, il est super efficace.
Ouais.
C'est un film qui est très court, là, à peine 90 minutes. Puis le premier 5-10 minutes, même 8 minutes, établi super bien. C'est comme... Il y a des leçons de cinéma dans ce film-là, je trouve, de cinéma en général ou de cinéma américain, de comme... Tu comprends qui ils sont, qu'est-ce qu'ils mènent, mais sans que ça soit cliché, juste le bon dosage.
Oui, tout à fait. Mais il faut juste savoir qu'est-ce que vous allez voir. Sachez-le, parce que j'étais allé voir un petit peu des critiques là, d'internautes, puis ça sur Google Reviews. Mais je pense que les gens aiment beaucoup ou détestent vraiment.
J'ai pas
d'entre-deux, puis je pense que dans les déceptions, je pense que beaucoup s'attendaient à justement avoir des kills, puis avoir des jumpscares, tout ça, mais on n'est pas là. Ouais.
Ben, il a fait quelques jumpscares, évidemment. Mais... Là, il y a beaucoup de jeux d'ombre et de lumière. Mais quasiment une scène de stroboscopique.
Mais c'est pas la conjuration, là.
Exactement. Là, ça va pas les hanter de la même manière. Là. Mm. C'est plus... c'est un peu d'un enfant de Babadook, là, ce film-là. Plus dans cette veine-là.
Ouais.
Mais avec un petit peu plus de moyens financiers puis une image un peu plus léchée. Là. Mais il y a de quoi de plus artistique que ce que la promotion veut démontrer. Mais je comprends pourquoi ils font ça. Ils veulent attirer les jeunes ados puis aller voir un film de peur. Mais à la limite, peut-être que vous trouverez plus votre plaisir avec Death of a Unicorn dans ce cas-là.
Ouais.
Qui va pas nécessairement vous faire peur, mais qui va être plus percutant, beaucoup plus morbide comme film. Hein.
Vraiment, oui, tout à fait. Allons du côté de la France pour la continuation de ce repas.
Une dernière affaire. Peut-être Men aussi de Alex Garland, qui avait ce côté-là d'être pourchassé un peu du weird. Là. On est plus dans ces veines-là du double niveau.
D'horreur psychologique.
Oui, voilà.
Ouais, tout à fait.
T'es allé où, excuse-moi?
Oui, du côté de la France pour nos deux prochains mais de notre service. Allons-y donc avec Dans la peau de Cyrano de Jennifer Devolder.
Avec un non-acteur ou disons une première première percée au cinéma, Joachim Arceguel ou Joachim, on ne sait jamais.
Oui, c'est Joachim.
Joachim. Et José Garcia, quand même un habitué du cinéma, Horatica aussi. Colin, un jeune bègue, va faire sa rentrée dans un nouveau collège. Mais écoute, c'est pas facile de passer du monde de l'enfance à celui des grands. Là. C'est l'équivalent à peu près du primaire au secondaire. Surtout quand on est différent. Le fait d'être bègue, ben, c'est une belle cible pour le bullying. Mais il va avoir une rencontre déterminante avec son professeur de théâtre, donc joué par José Garcia, qui va être une forme de figure paternelle et bienveillante qui va le guider dans un nouvel essor, un peu comme une nouvelle naissance à travers le théâtre qui va l'aider à s'émanciper et peut-être vaincre son bégaiement.
Et ça va être par l'entremise de la pièce Cyrano de Bergerac, oui, et lui va interpréter le rôle de Cyrano, donc d'où la raison de ce titre-là.
Oui, puis qui est encore plus surprenant parce que comment un bègue peut avoir le rôle principal d'une pièce de théâtre, voilà.
Et avec des vers aussi, aussi pointus et précis comme ça.
Voilà. Le film s'appelait en France Le Panache. Ouais. C'était renommé ici, qui fait plus de sens. Mais c'est toi le spécialiste de ce film-là, parce que j'ai pas eu la chance de le voir. Toi, tu l'avais vu il y a quelques semaines.
Donc, tu le mentionnes, ce qui est très drôle, c'est que le film est une adaptation d'une pièce de théâtre, d'un one-man show.
Oui, c'est ça. C'était une seule personne qui faisait tous les
quatre
personnages.
Rôles. Ben, en fait, il y a quatre personnages sur scène qui s'appelaient Dans la peau de Cyrano. Fait que c'est vraiment le film qu'on a choisi. Okay. Oui, c'est ça. Écoute, moi, je dois avouer, j'ai vraiment bien aimé ça. J'avais pas d'attente, c'est peut-être ça la meilleure façon des fois d'approcher des films. Pourtant, j'aime aussi les récits d'apprentissage, fait que déjà, c'est un créneau qui m'intéresse beaucoup, au cinéma. Ça réinvente pas la roue, mais c'est vraiment fait avec référence pour le genre. D'ailleurs, Jennifer de Volder, que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Donc, il va y avoir un petit papier avec un entrevue avec elle qui était une grande fan. Donc, évidemment, elle a grandi dans les années 80-90 avec ce genre de film-là. Donc, une lettre d'amour à Dead Poets Society, beaucoup. Évidemment, on peut faire le lien entre le personnage de José Garcia et celui de Robin Williams, un personnage, un professeur un peu atypique qui va bouleverser un peu les conventions là, d'un collège un peu stiff, conservateur. Mais comme je dis, c'est bien écrit, c'est bien joué, c'est très touchant, attendrissant. Et ça vient beaucoup du comédien, en fait, du non-comédien de Joachim Arceguel, qui a eu le rôle par un casting sauvage. En fait, la réalisatrice voulait vraiment embaucher quelqu'un qui souffre de bégaiement. Donc ça rajoute d'ailleurs au film, parce que j'ai su cette information-là après. Donc c'est encore plus remarquable. Donc tout de suite pour cette personne-là, cet ado-là, elle a un coup de cœur. Donc ils ont travaillé beaucoup en amont du tournage pour le préparer et ça donne c'est ça, justement une espèce d'élan naturel à tout ça. Je trouve qu'on évite les clichés, les jeunes ont une belle chimie entre eux. Donc si vous voulez amener passer un bon moment avec vos ados, pré-ados, c'est vraiment un très beau film à leur faire découvrir, je pense. D'ailleurs, je pense qu'une belle réception de ce public-là, parce que le film vient de remporter tout récemment deux prix dans des festivals ici au Québec.
Oui, à Québec et à Montréal, les festivals de films familiaux.
Oui, Festival cinéma famille de Québec et le Festival pour films pour enfants à Montréal. Donc, dans les deux cas, remporter le prix du meilleur film. Moi, j'ai quelque chose que je recommande de chaleureusement et c'est vraiment, moi, mon coup de cœur de la semaine.
Ben écoute, je vais me faire un devoir de l'écouter d'ici la semaine prochaine. C'est ça. J'ai eu les échos aussi de nos collègues qui ont eu la chance de le voir. Sont vraiment très bons. Puis même de gens que d'habitude, ils n'aiment pas nécessairement ce genre de film-là. Là où j'ai vu des critiques plus négatives, c'est que je pense qu'on... Je sais pas comment le dire exactement, mais tu sais, c'est ce qu'on disait avant d'enregistrer, c'est que le film n'a pas besoin toujours de réinventer la roue si une partie de son public est aussi des gens qui ne l'ont jamais vu, Société des poètes disparus ou les autres. Fait que, oui, il y a une forme de formule qui revient du professeur atypique, mais qui va réussir à gagner le cœur des élèves, puis lui que ça va... Mais c'est un récit inspirant qu'on veut vivre, qu'on veut transmettre à nos enfants pour leur apprendre une forme de persévérance puis de positivisme à travers tout ça, et d'espoir. Fait que c'est correct que ça, tant qu'on refait bien les choses, puis comme t'en témoignes, c'est que celui-là, il est vraiment bien fait. Fait que ils n'ont pas coupé coin rond, tu sais. Fait qu'après, de dire que ça, c'est pas grand-chose parce qu'on a déjà vu ce genre d'histoire-là, je trouve que c'est pas juste pour le film.
Ah, tout à fait. Je trouve que ça va être un peu dur, honnêtement. Surtout un film qui se veut, c'est juste donner de la bonté ou qui se veut juste bienveillant envers les jeunes, puis leur montrer que c'est correct d'accepter un peu la différence et de surmonter aussi un peu ces problèmes-là, ces conditions des fois-là qui pourraient nous empêcher ou nous créer des barrières, mais finalement qu'on peut réussir à les surmonter. Fait que bref, Dans la peau de Cyrano, très très bien, film de récit d'apprentissage. À voir.
Voilà.
Allons dans un tout autre registre.
moins pour vos ados. Si
ouais, c'est... tout à fait. Miséricorde d'Alain Giraudy.
Ouais, j'ai oublié de noter un énième film pour M. Giraudy. On va suivre un jeune homme qui est de passage, de retour dans son village d'enfance pour les funérailles du père d'un ami d'enfance, donc. Mais sa venue va un peu semer le trouble dans le petit village. Ils sont dans les Cévennes parce qu'il va décider de prolonger son séjour. La mère, donc la veuve, la mère de son ami, va l'inviter à rester. « Ah, tu peux dormir ici et tout. » Mais là, il va se rendre compte que ça fait pas vraiment le bonheur des gens autour. Puis tout ça va se compliquer quand un des jeunes, ils ont genre 35 ans, là, mais un des jeunes va disparaître, qu'on ne trouvera plus sa trace. Alors là, on commence à suspecter qu'il est arrivé quelque chose. Hey, c'est comme ça qu'on tease par chez nous. Alain Giraudy mélange pas mal tout le temps ses thématiques. La campagne, la sexualité, l'homosexualité, on ajoute ici un peu de répression des désirs. Fait que vous comprenez que là, on est moins dans le coming of age pour vos jeunes ados. Peut-être plus dans l'ouverture vers le cinéma avec un grand C.
Ben, on est vraiment dans le drame psychologique, mais avec un petit côté thriller quand même, renierait pas Alfred Hitchcock, je pense. Je connais pas l'univers d'Alain Giraudy, mais de ce que j'ai pu voir par un de nos amis ici, qui est grand fan de cinéma, il semble avoir, comme tu l'as dit, vraiment son propre univers cinématographique qui est pas pour tout le monde. D'après cette personne-là, lui, il trouvait que c'était son meilleur. Alors peut-être ça peut vous donner une indication.
Ah ouais, okay. Souvent, l'inconnu du lac
vraiment aimait ça. Moi, je vais avouer que j'ai trouvé ça intéressant. C'est quand même un film qui challenge, qui est quand même très lent. C'est très cryptique aussi, donc puis c'est voulu, on ne connaît pas trop les motivations du personnage principal. Il y a une grande part d'ombre, de mystère jusqu'à la toute fin, mais ça n'enlève rien à l'appréciation. Mm-hmm. Au contraire, ça veut juste rendre la chose encore plus fascinante, peut-être à observer. On est un peu voyeur, un peu de tout ce qui se passe. Mais c'est un film qui est intéressant. Si vous aimez évidemment le cinéma un peu plus poussé, là on parle de cinéma un peu plus niché.
Il y a un peu le côté de la ruralité, là, de vivre en campagne, que tu as l'air de vivre une vie tranquille, mais finalement tu passes ton temps un peu wairé les autres. Puis un peu ce côté-là, quand ils vont se promener en forêt, chercher des champignons, il y a souvent quelqu'un d'autre qui est comme « Ah, moi aussi je me promenais en forêt, puis je vous ai vu, puis… » C'est ça, le côté voyeur, comme tu dis. On dirait que nous-mêmes, en tant que cinéphiles, on le ressent, mais même d'autres personnages font ça entre eux. Puis, ce qui est quand même une thématique cette année au cinéma français, là, se promener dans le bois, cueillir des champignons. Là, il y avait ça dans le François Ozon, puis c'est ça. C'est peut-être revenu à mode, comme l'observation des oiseaux et autres.
Ben, je pense qu'un comparable, sans être aussi dans le thriller, mais c'était le film... c'est sorti il y a peut-être 2 ans avec Denis Ménochet... C'est tout ça,
Seuls les bêtes?
Oui, c'est ça, oui.
Asbestos, je pense.
Oui, c'est ça. Alors, on a un peu ce côté-là de campagne, de gens qui se méfient un peu de tout le monde.
Là, il y avait vraiment une guerre de fermiers qui était plus claire. Là. Ici, c'est plus juste au niveau des mœurs puis du passé. Là. Comme on dit, c'est le fait qu'ils reviennent dans le secteur, que c'est pas tout le monde qui est zen avec ça.
Mais je pense que si vous avez apprécié lui, vous devrez apprécier Miséricorde aussi.
Voilà. Il y avait une bonne quantité de nominations au dernier César.
Je m'en allais là, justement. Ça a été le grand perdant des Césars, finalement.
Oui, il n'a rien remporté.
Parce qu'il y avait 8 nominations quand même. Fait que c'était un des plus nommés, mais récolte aucune statuette.
Avec Félix Kissil, je me souviens pas dans quoi d'autre on l'a vu.
En fait, c'est son premier rôle au cinéma.
Ah, bon.
Donc, il a joué dans quelques séries là-bas en France. Donc, un visage un peu connu, mais c'est vraiment son premier grand rôle. Et il est vraiment fascinant à observer.
Tout à fait, oui. Il est vraiment... C'est un personnage, pas son faciès nécessairement, mais de la manière qu'il qui hante l'écran. Ouais. Il est vraiment captivant. T'sais.
D'ailleurs, le réalisateur disait, quand il l'a casté, il disait, il pouvait être autant l'ange que le démon.
Ah, voilà.
Et je pense que c'est bien dit, effectivement.
Voilà. Catherine Fraud, qui est probablement le nom le plus connu du, ouais, du tournage. David Ayala, qu'on a vu récemment dans Berger, dans L'Amour Ouf, dans Kaamelott. Fait qu'il y a un genre de character actor, comme on dit.
Ouais.
C'est ça.
Allons-y pour le dessert, donc. Parce que oui, là, on a la panse pleine. Alors, on va aller dans le léger. Un petit dessert très léger.
Très léger, je sais pas. Ouais, moi, je pense que c'est un gros banana split.
Ouais, hein. Ouais, c'est vrai. On n'est pas dans la subtilité. A Working Man de David Ayer.
Oui, La parole d'un homme au Québec avec Jason Statham. Je ne sais pas s'il y a un surnom, le Stataminator, je ne sais pas, Staminator, Stamina. Jason Statham, David Harbour, Michael Peña, Jason Fleming. Pas mal, une couple de madame, mais beaucoup des mecs. Statham joue un ouvrier de la construction qui est un ex-soldat dans les forces spéciales britanniques. Oui, oui, ça existe, les Royal Marines, qui travaillent souvent de pair avec les Américains. Fait que, parce que Statham, même s'il joue aux États-Unis, souvent, il est toujours un Britannique. Il ne, ouais, cache pas son accent.
Ouais.
Il va devoir sauver la fille de son patron qui est comme joué par Peña, qui est une grande famille d'hispano-américains qui font toute la famille, puis qui l'ont vraiment pris sous son aile. Lui, quand il est revenu un peu PTSD de la guerre, ils ont donné un job, il s'occupe de lui. Fait qu'il dit, bon, ben, j'y ai fait une promesse, je vais aller la sauver. Elle qui a été enlevée parce qu'il semble être un réseau de trafiquants, de personnes et de crimes sexuels, etc. La fille qui a, mettons, 20 ans, là, est en train d'être
à l'université,
à
l'université, première
la,
session.
La fac, non, ouais, l'université, oui, c'est américain. Puis lui, il se sent très touché de ça parce qu'il a lui-même aussi une petite fille, plus gamine, qui était beaucoup en difficulté à obtenir la garde par rapport à son beau-père suite au décès de sa femme. Fait qu'il est très touché de ça. Il rentre là-dedans, mais il se met le doigt dans l'engrenage parce que finalement, ben, il y a ça, mais il y a de la mafia russe, la drogue, il y a plein d'affaires. Fait qu'il va casser des gueules jusqu'à temps qu'il
trouve la fille.
Ben ouais. C'est ça, qui save the day. Ben, pas Get the Chick, ça, parce que sinon, il couche pas avec, là, voyons, c'est la fille de ses amis. Hein? C'est basé sur un roman de 2014 qui s'appelait Leaven's Trade, parce que Leaven est le nom du, ouais, personnage, par Chuck Dixon, qui est le premier d'une série de 10 ou 11 romans. Là. C'est 11 romans, mais il y en a un qui était genre exclusif à Kindle ou des affaires comme ça. Là. Fait que c'est un peu du... C'est pas du roman de gare, mais tu sais, du roman d'action. Là. Mm-hmm. Puis, c'est drôle, ils sont sur Goodreads, comme tous les livres.
Ouais.
Puis ils sont extrêmement bien cotés, okay, mais ils ont genre 35-40 reviews. Parce que, okay, je pense que le public de ces livres-là n'est pas un public qui utilise beaucoup Goodreads, ouais, puis met des critiques sur ses affaires. Ouais. Là. C'est du post-Tom Clancy et autres, là, genre, ouais, de film de livres d'action. Puis,
on est pas dans le style Jack Reacher un peu, là, j'ai l'impression.
Ouais, c'est ça, exact. Là, en décrivant une espèce d'homme impossible là, qui est d'action et tout, là, même s'il y a ses difficultés. Ce qui est cool ici, là, c'est que c'est une bonne gang de mecs d'action. Parce que David Ayer et Statham ont collaboré il y a un an avec, mm-hmm, The Beekeeper, qui a été un gros succès au cinéma et qui a annoncé qu'il allait avoir un Beekeeper 2. Fait que j'imagine que ça va s'en venir à un moment donné. A Working Man ici, ben, cette adaptation-là est coécrite par Ayer et Sylvester, ben, Stallone, oui, donc le Sly lui-même.
Qui est aussi un des producteurs du,
ben,
film.
Producteur, donc, ouais, Balboa Production. Aussi Falcon Punch, j'oublie comment s'appelle, la compagnie de Statham. David Ayer aussi, fait que tout ce beau monde-là, avec MGM. Fait que c'est...
Il y a de la testostérone non plus.
C'est du dadcore, là. C'est, ouais, du film de papa, là, que vous pouvez être papa-père, fille, n'importe quoi, et aimer ça, mais vous comprenez le genre en général, les films de papa, de la baston, va aller sauver le monde, taper les méchants, verser, mmh, la drogue dans les toilettes. Puis on se gêne pas. Hein. Des fois, les films, c'est comme trois coups de poing, la personne est inconsciente, puis on passe à autre chose, là. Oh là, shoot to kill. Hein.
Oui.
Comme dans les films de zombies, un peu, là. Prends pas de chance, tire dans la tête. Puis... Fait que oui, ça gonne tout le monde. Puis si t'es pas avec moi, t'es contre moi, ça c'est sûr. Et il y avait aussi travaillé ensemble tout ce beau monde-là. Homefront, en 2013, je crois que c'était aussi réalisé par Ayer, scénarisé par Stallone. Je suis plus sûr que c'est Ayer qui a réalisé.
Non, je pense pas que c'est lui qui avait réalisé.
Mais c'est Stallone qui avait écrit, puis Statham qui jouait dedans. Les deux ont joué ensemble dans tous les Expendables. Ouais. Fait que ça a l'air d'un bon duo. On dirait que Stallone aime que Statham reprenne ce flambeau-là.
Ben, c'est son digne héritier, c'est certain.
Puis, à la différence... Ce que j'aime bien, moi j'aime beaucoup Statham, j'ai comme grandi avec lui. Ben grandi, mais tu sais, quand j'étais jeune, j'étais plus Schwarzenegger, comme Félix Rose, qui aussi aimait bien, que Stallone, j'aimais mieux les films de Schwarz. Puis j'étais pas tant Van Damme, toutes ces affaires-là, mais Statham, on l'a vu apparaître dans Lockstock, dans Snatch, qui était pas exactement le même genre de rôle, mais on aimait bien sa bonhomie là-dedans. Puis là, quand il a commencé à faire les Transporters et ces trucs-là, qu'on a embarqué là-dedans, The One et tous ces trucs-là. Mais tu sais, lui, il a toujours, c'est drôle, mais assumé son poil. Il a son chest velu. Il est devenu extrêmement musclé, amené à certains points extrêmement ripped. Puis, mais tu vois, il se met moins en scène dans ce film-là. Sauf erreur, on le voit jamais nu ou en chest, alors que Stallone puis Schwarzenegger aussi ont leurs heures. C'était en camisole, c'était huilé à fond. Toute cette mode-là, très 80-90, a disparu. Puis... on met un t-shirt gris cendre, là, genre. Drôle de scène, d'ailleurs. Je vais te laisser parler à un moment donné. Mais dis-moi,
très enthousiaste.
J'adore ce genre de film-là. Je suis content qu'il sorte au cinéma, puis j'ai trouvé ça très bon. Mais
t'as été bien sûr.
Je l'ai pas encore noté sur Letterboxd, puis je sais pas si j'oserais mettre genre 4 étoiles. Là. C'est comme dans le grand spectre du cinéma, ça peut être insultant, là.
Mais dans le spectre de Statham.
De ce genre-là et tout, j'en ai... C'était très bien exécuté. Quelques trucs ridicules, mais ça passe. Tu sais. Ouais. Parle un peu de ton monologue. Là.
je pense que la vision de Stallone est très sentie dans ce scénario-là. Parce que par moment, je revoyais certains des films de Stallone, Cobra, je revoyais Over the Top, entre autres, qui a aussi scénarisé avec justement ce père-là, avec son enfant, relation tendue. La mère était décédée, puis son beau-père veut pas qu'il voie sa fille. C'est là, dans Over the Top, c'était
mais
son
lui,
garçon.
Il est un père parfait, dans le fond. Ben, en tout cas, là-dedans, un peu, tu sais.
Ouais, mais tu sais, je pense qu'il accepte ce qui s'est passé, tu sais, qu'il souffre de ça, mais lui, il veut juste, en fait, il y a un corps pur, en fait. Là. Fait que, il veut juste avoir la chance d'être avec sa fille puis partager.
Mais tout le monde veut le provoquer en disant, genre, en haut, toi, t'es PTSD, tu t'es jamais fait soigner depuis la guerre. Fait que, tu sais, j'ai envie de me frapper, frappe-moi donc, je sais que si tu me frappes, tu vas perdre la garde, c'est sûr. Puis dans le fond, il le fait jamais, tu sais. Mm-hmm. Ben, sauf au moment, il va battre tout le monde, mais tu sais, son beau-père, puis tout. Ouais. Fait que, t'es comme. Ben, vous le provoquez tout le temps, mais il garde toujours son sang-froid. Fait que c'est quoi le problème au final? Il n'y en a pas de PTSD, tu sais, où il est guéri de ça. Je sais pas s'il a consulté. Fait que, tu sais, c'est pour ça, c'est on va y écrire des failles, mais on va jamais montrer qu'il y a des failles.
Non, c'est ça. On voit qu'il est très apprécié parce que tout le monde lui amène des lunchs.
C'est ça, exact.
Des trucs de... Fait que non, tu sais, fait que c'est très surligné, là, au gros marqueur noir, le scénario, là. On n'est pas dans la subtilité. Puis Stallone n'a jamais fait dans la subtilité, d'ailleurs. Mais c'est ça. Mais j'ai passé un bon moment. C'est ce que c'est. C'est bien fait. C'est avec pour le genre. Puis j'étais quand même un peu surpris, effectivement, donc, de voir Levan Cade, là, qui est le héros de cette série-là. Tu l'as dit, il est écrit par Chuck Dixon. C'est un nom que je connais, Chuck Dixon.
Il fait beaucoup de BD.
Effectivement, c'est un scénariste.
Comics, hein,
et de Marvel les aussi. Deux, okay. Ouais, mais beaucoup du Batman. En fait, à l'époque où je collectionnais les comics, où j'en lisais beaucoup, c'était le scénariste de Batman. Et c'est lui qui est derrière, il est le co-créateur de Bane. Et entre autres de la série Nightfall ou Nightfall.
Dans... Ok, je m'allais avec Nightwing, mais Nightwing, ça c'est le bonhomme.
Ça c'est
Nightfall,
le personnage. Nightfall, c'était une série, une mini-série, un événement, disons ça.
Okay.
Un storyline dans Batman où Bane brisait le dos de Batman.
Ah, ce qui a été utilisé dans le troisième de Nolan.
Okay. Ouais, donc pendant une année, Bruce Wayne n'était plus Batman. C'était justement ça. Nightwing, Robin qui avait pris le cap et tout ça. Donc bref.
Tu dis que dans Dark Knight Rises, c'est deux semaines à peu près, puis il est rétabli. Là.
Ouais. donc, quand même, un grand nom. C'est ça, de la scénarisation du comic book. Fait que je savais même pas que c'était recyclé en tant que romancier.
Et puis, il n'a pas chômé. Okay. 11, j'ai pas regardé les années.
Ouais,
ça doit être
par année,
un par année.
Peu près, ouais, j'ai l'impression.
C'est Michael Peña, David Harbour, ne servent pas trop. Harbour, il est... à peine là,
ouais.
Ça semble vraiment qu'on les a amenés, ben, surtout Harbour, puis même Jason Fleming, pour une éventuelle suite. Je pense que si l'argent est là, si le public est au rendez-vous, on va avoir quelques suites du personnage de Leaven. Puis je me demandais des fois, j'étais comme, ah, ben ils sont un peu... Tu sais, pour un acteur, ça doit être... Je sais pas si c'est si intéressant de dire, hey, veux-tu venir faire 3 jours de tournage, mais s'il y a une suite, on va te donner plus d'importance, puis tout. Mais Peña et Harbour étaient dans End of Watch aussi, de David Ayer en 2012. Fait qu'à un moment donné, je pense que c'est des relations comme ça, un coup de fil. Ah, ben oui, ouais. C'était le fun, parfait. Puis s'il y en a d'autres, il y en aura d'autres, puis etc. Parce que Peña, il est le père, ben pas endeuillé, mais qui s'inquiète pour sa fille, mais il trempe pas dans l'action et tout. On le voit dans deux scènes, là. Une sur le chantier, une à la maison, puis c'est tout. Statham, là, c'est de l'argent en tabarnouche.
Ouais, hein?
On oublie ça.
Public.
Ben déjà, c'est sûr qu'il a trempé dans 3 Fast and Furious, dont le spin-off Hobbs et Shaw et tout. Lui, là, il représente... excuse-moi, c'est son 48e film.
OK, quand même.
Puis il y en a d'autres en tournage puis qui vont sortir prochainement. Là. Il a rapporté aux États-Unis à date 2,45 milliards de dollars, puis worldwide 8,48. Les films dans lesquels il apparaît, puis même au niveau des Fast and Furious, je regardais dans la liste, puis ceux qui sont juste en caméo à la fin, ils les mettent même pas dedans. Okay. Vraiment, il est au billing, là, t'sais, les deux plus le spin-off. Fait que c'est une moyenne quand même de 55 millions par sortie aux États-Unis. T'sais. Mm-hmm. Fait que les Fast and Furious font beaucoup plus, puis le premier de Meg, puis une couple d'affaires comme ça. Puis des fois, ses premiers films aussi, il y a eu du 20 millions. Là. Snatch, c'est un classique, mais ça n'a pas fait d'argent.
En
plus, c'était comédie noire britannique et tout, ça a fait une quinzaine, 20 millions peut-être. Là.
Non, mais je pense que dans les années 2000, là, c'était probablement le roi de la location DVD là, dans ce créneau-là.
Ouais, fait que c'est le fun de voir que lui arrive à revenir au cinéma avec ça. Il y a une demande pour ça. T'sais, Beekeeper, ça a fait 66 millions aux États, 162 dans le monde. C'est pas astronomique, mais pour un film qui était sorti genre le 10 ou 15 janvier, qui est d'habitude du dumping, on s'attend à rien, ça a été un petit succès surprise. Fait que je pense que on essaye de capitaliser là-dessus avec Working Man en sortant un petit peu plus grosse période et tout. Je sais pas, j'ai pas regardé les pronostics de son premier week-end. Je pense que c'est plus dans du 15-20 millions.
Ouais,
là,
Mais
ce qui pourrait peut-être le placer numéro 1, dépendamment de la drop que
Blanche-Neige
va subir ou pas. Là.
Ouais.
Fait que. Très excitant. On saura lundi qui sera numéro 1. Mais bref, ouais, c'est pas un grand film, mais ça livre ses promesses, puis c'est violent, puis il tue du monde à coups de gun. Puis
ça va être Levan Cade qui va chercher Blanche-Neige, qui essaie de la trouver.
On n'aurait pas aimé ça. Hein. Puis c'est drôle parce que là, c'est Levan's Trade, parce que là, l'échange, puis le trafic, puis toutes les 11, c'est Levan apostrophe S quelque chose. Levan's et l'action du film ou un parallèle, ben, du livre, et etc. Je ne sais pas si on va se rendre à 11 films. Ça serait très surprenant.
Serait surprenant.
Puis, tu sais, le budget est à l'écran aussi, quand même, je trouve.
Ouais, quand même,
La production, là, ça a dû coûter une quarantaine de millions, sûrement. Est-ce qu'il nous reste quelque chose? Mentionner le conte musical « Finalement » de Claude Lelouch, qu'on n'a pas eu l'occasion de voir, avec Kad Merad et Michel Bougina, entre autres. C'est le 51e film de Claude Lelouch, et si c'est impressionnant qu'un comédien comme Statham en ait fait 50, pour un réalisateur, c'est encore plus un incroyable fait d'armes.
Ce qui est quoi, il doit être pas loin de
dans
80.
Dans 80-aine, je pense.
C'est ça.
Et fait qu'on dit que c'est possiblement son dernier. C'était beaucoup ça, la tagline, c'est finalement le dernier film de Claude Lelouch. C'est un homme, donc le personnage de Merad, qui atteint une espèce de drôle de maladie qui entraîne une folie des sentiments. Il faut abandonner tous les siens puis part à l'aventure à travers la France armé de sa trompette. Il a son amour de la musique et avec ses souvenirs, sa trompette va croiser plein de gens. Merad est un jeune sexagénaire. Va croiser des inconnus qui vont lui apprendre le sens de la vie, retrouver une demi-sœur dont il ignorait l'existence et une fermière qui va transformer son existence, justement. Fait que c'est ça, conte musical, donc entre la fable et le musical, finalement. Fait que, écoute, on n'a pas eu le temps de le voir, puis je me serais senti un peu imposteur n'ayant jamais vu aucun... Ah, je pense que j'en ai vu un, Lelouch, dans ces derniers. Puis aussi, ça faisait plusieurs années, là, peut-être dans... Je pense qu'il en a fait deux dans les 20 dernières années, fait que c'était beaucoup les années 70-80. Voilà, la semaine prochaine, le 4 avril, le fameux Minecraft Movie. Je sais même pas si... Connais-tu le jeu? Ça jouait-tu chez vous?
Ben là, je suis trop vieux, moi. Non, mais...
Non, mais je sais pas si ton garçon aurait
mes
joué.
Mes enfants auraient pu, mais non, vu qu'ils sont pas des gamers, j'ai été épargné un peu du phénomène Minecraft, fait que je vais découvrir
non plus,
ça
on est deux
peu.
Gros néophytes, fait que on va quand même circuler la toile et demander à nos collègues ou ceux qui ont plus connu le jeu si c'est une bonne ou pas adaptation du jeu. Et on a déjà vu et on a hâte de vous discuter avec vous de Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, le retour de Ken Scott en France, coproduction, mais majoritairement un film français. Et si tout va bien, on aurait même l'occasion de discuter avec Ken Scott d'ici là. Pour nous contacter, écrivez-nous par courriel balado à commercialmonciné.ca et suivez Magazine Monciné sur Facebook et Instagram. Et donnez-nous donc 5 étoiles ou au moins 4 là où vous écoutez le balado, le thumbs up ou tout ce qui peut nous encourager et supporter témoigner de votre appréciation. Procurez-vous gratuitement le magazine Monciné qui est disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori de la province. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations.
Sur ce, on vous souhaite bon cinéma, bon popcorn et si jamais vous heurtez une licorne avec votre véhicule, laissez-la donc sur la route, ça va vous citer des ennuis.